Le journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa numéro 1. Africa.
Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. La parole est à vous pendant presque 30 minutes sur la radio africaine. Aujourd'hui, mercredi 25 juillet 2018, dans le JDA, l'affaire Benalla fait-elle vaciller la République française ? Depuis une dizaine de jours, cette affaire fait la une de l'actualité en France. Cette affaire qualifiée de scandale d'État par l'opposition éclabousse à la fois l'institution policière et le gouvernement. Et également le président de la République, Emmanuel Macron. Ce dernier s'est exprimé hier soir sur cette affaire. Il a parlé de trahison en ajoutant, je cite, « le responsable, c'est moi ». Nous en parlerons avec Éric Fassin, professeur de sociologie à l'université Paris 8. Pour nous donner votre avis sur le sujet, posez des questions à notre invité. Appelez-nous dès maintenant au 01 55 07 58 00. Mais avant de parler de l'affaire Benalla et de ses conséquences, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour amis des JDA, c'est M. Gabi. Bonjour tout le monde. Mais je vais parler juste de la campagne électorale du Mali. Je vais parler aujourd'hui vraiment tout ce qui a rejoint Soumaïla. Je remercie à tout le monde, tous les politiciens, tous les anciens politiciens qui sont venus par Soumaïla. Ils savent que les changements, ça vient par Soumaïla. Vraiment, je remercie tout le monde qui est en train de rejoindre Soumaïla. Rejoignez encore, on a besoin de tout le monde, on a besoin de tous les Maliens. Changement pour le Mali. Avec Soumaïla, il y aura des changements. Avec Ibeka, pendant 5 ans, on a vu que des malheurs. On a vu que des malheurs. Militaires tués, les populations souffrent, les populations, ils ne mangent pas leur faim. Vraiment, avec Soumaïla, on n'a que des bonheurs. Unis le Mali, avec Soumaïla, tous les Maliens seront unis. Vraiment, avec Ibeka, que des divisions sont entre les Maliens. Merci, amis des Judéens. Votez pour Soumaïla le 29. Votez pour Soumaïla, pour l'avenir, nous-mêmes, pour nos enfants. Merci, amis des JDA, c'est M. Gabi.
Bonjour, je suis Christian du Congo-Brazzaville. J'appelle juste pour interpeller l'Union africaine, la structure qui s'occupe du social et de la population au sein de l'Union africaine, de mettre en œuvre des politiques de contrôle de naissance en Afrique. Aujourd'hui, on nous annonce que l'Afrique, en 2050, aura 2,5 milliards d'habitants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit maîtriser la fécondité des femmes. Voilà, dans un pays, il faudrait qu'il y ait plus tôt une baisse de taux de natalité et une hausse de la croissance économique, ce qui a un impact sur l'élévation du PIB par habitant. On oriente cela sur la dimension économique. Donc, baisse du taux de natalité à 16 pour 1000 ou à 15 pour 1000 et hausse de la croissance économique à 5-6%, et ça a un impact sur l'élévation du PIB par habitant. Merci beaucoup. Au revoir. À plus.
Bonjour amis de JDA, bonjour peuple congolais. J'attire l'attention de chacun de nous, les Congolais, à savoir et à essayer de comprendre, à essayer d'étudier les refus de M. Kabila par rapport à tous ces gens qui devaient venir le voir, et il refuse, il reste catégorique dans sa position. Essayons de faire attention, ça peut aussi être une stratégie, on est en train de tester la population, parce que c'est un refus, ce sont les mêmes personnes qui lui ont mis au pouvoir. Et aujourd'hui, il les boude. Essayons de nous poser les questions. Kabila n'a pas de force pour mater tous ces gens. Ils en ont pour un clin d'œil pour l'effacer. Mais bon, il commence à les bouder. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière? Est-ce qu'on ne veut pas l'aider? Ou alors tout ce qui s'est dit, c'est le contraire de ce qui se passe dans la coulisse? Essayons de faire attention parce que là, il y a quelque chose qui se cache derrière les refus de Kabila et de rester catégorique dans sa position. Je crois peut-être que c'est un petit jet qu'on veut faire aux Congolais pour la prolongation de ces messieurs à son troisième mandat. Essayons d'être vigilants et vraiment restons aussi dans notre position de refuser complètement que Kabila postule encore pour son troisième mandat. Bien des choses à tous, à tous les Congolais. Un peu de courage, on y arrivera. Ingeta.
Bonjour, j'ai toujours dit que le Front populaire ivoirien est un parti de revanchards. Mais la preuve est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois certains responsables du FPI et du COGEP, c'est-à-dire le parti de Blé Goudé, qui veulent s'allier au PDCI. Ah, mais je suis tellement surpris. C'est comme une personne qui est violée, et, comment dirais-je, qui fait la cour à son violeur. Voilà, c'est dans ce système-là, dans ce schéma-là que nous sommes aujourd'hui. Mais chers amis, mais n'oubliez pas que le PDCI était comptable du transfert de Laurent Gbagbo à La Haye quand ils étaient en alliance RHDP avec le RDR. Cela, ne l'oubliez pas. Mais vraiment, je suis vraiment surpris. En même temps, je salue le discours responsable du président Ouattara. Mais moi, je lui demande de toujours rester dans le sillage du pouvoir pour apporter son expertise et son expérience à cette nouvelle génération. Idriss, bonne journée.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00, le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui, mercredi 25 juillet 2018, l'affaire Benalla et ses conséquences. Pour la première fois depuis les révélations du journal Le Monde, le chef de l'État Emmanuel Macron a commenté l'affaire hier soir devant les élus de la majorité. S'il cherche un responsable, le seul responsable, c'est moi et moi seul, a-t-il déclaré. La commission des lois de l'Assemblée nationale, de son côté, poursuit ses auditions. Elle a entendu ce matin le général Éric Biofarina, commandant militaire de l'Élysée, puis le colonel Lionel Lavergne, chef du groupe de sécurité de la présidence de la République. Depuis une dizaine de jours, cette affaire fait la une de l'actualité en France. Cette affaire, qualifiée de scandale d'État par l'opposition, éclabousse à la fois l'institution policière, le gouvernement et aujourd'hui le président de la République, Emmanuel Macron. Nous avons en ligne Éric Fassin. Éric Fassin, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'intervenir en direct dans le journal des auditeurs. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris 8, un observateur de la société française, mais également de la vie politique. Tout d'abord, êtes-vous d'accord avec l'opposition quand elle dit que c'est une affaire d'État ?
Bien entendu, puisque c'est une personne qui, M. Benalla, qui est au cœur manifestement du dispositif de l'État, mais en même temps qui en est à la marge. C'est-à-dire que d'un côté, c'est quelqu'un qui a des fonctions importantes et qui manifestement non seulement agit dans le domaine de la sécurité, mais sert d'intermédiaire pour toutes sortes de choses, mais qui en même temps, eh bien, échappe au contrôle, puisque en tant que chargé de mission, eh bien, il n'était pas en quelque sorte contrôlable par les parlementaires, par exemple. Donc il y a quelque chose de très frappant, c'est l'idée que au cœur même de l'État,
oui,
au plus près du président de la République, il peut y avoir quelqu'un qui, en quelque sorte, échappe à tout contrôle.
Oui.
Et ce qu'on constate en plus, c'est que parce qu'il échappe à tout contrôle, eh bien lui-même, il est tout à fait susceptible de perdre tout contrôle de lui-même. C'est-à-dire que, en fait, si on n'est pas contrôlé, eh bien on peut commencer à faire n'importe quoi. Et c'est ça qui vient de se passer, et c'est de ça qu'on vient d'avoir la démonstration.
Cette affaire révèle selon vous les dysfonctionnements qui existent au sein du pouvoir dans les relations entre police, préfet et cabinet de la présidence. Est-ce qu'on peut parler même dans ce cas de figure de police parallèle ?
En tout cas, manifestement, il y a quelqu'un qui, sans appartenir à la police, pouvait premièrement porter un casque, porter une arme, etc., mais aussi qui pouvait donner des ordres, qui pouvait être promu lieutenant-colonel à 26 ou 27 ans. Bref, on a un fonctionnement où la police et la gendarmerie étaient en quelque sorte sous le contrôle de quelqu'un qui n'avait aucune fonction officielle pour le faire, mais qui néanmoins le faisait. Donc ça, c'est quelque chose qui est très frappant, et la raison pour laquelle aujourd'hui cette histoire est sortie d'abord avec Le Monde,
oui,
c'est sans doute qu'il y a des gens dans la police et dans la gendarmerie qui n'étaient pas très contents.
Oui, oui,
on a l'impression, oui, en quelque sorte...
Les policiers sont pas contents, effectivement, hein, ils l'ont dit publiquement.
Bien sûr,
oui.
Et donc on peut imaginer que c'est ça qui a fait sortir l'affaire. C'est-à-dire que bien sûr, il y a eu des complicités, puisque il y a des gens qui ont transmis les images vidéo et qui sont d'ailleurs poursuivis en conséquence.
Oui.
Et ce que ça veut dire, c'est que au sein même de la police, on se dit, attendez, ça ne va pas, c'est,
oui,
pas normal.
Oui.
Il n'est pas normal que quelqu'un qui n'a aucune fonction officielle qui lui permette de jouer ce rôle, eh bien se retrouve en quelque sorte à donner des ordres, à agir impunément, mais aussi à donner des ordres.
Oui. Éric Fassin, est-ce qu'il y a une spécificité française? Je m'explique, on se souvient des relations entre Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, des relations que ces deux personnalités avaient avec, par exemple, Alexandre Djoury, personnalité controversée, et là, Emmanuel Macron avec Alexandre Benalla. Est-ce que les hommes politiques français sont fascinés par ce genre de personnages un peu troubles, et pourquoi, selon vous?
Je crois surtout qu'il y a un système présidentiel et présidentialiste. Présidentiel, puisque bien sûr on a un président de la République, mais présidentialiste en ce sens que le pouvoir du président de la République ne cesse de se renforcer. On le voit dans le fait que pendant très longtemps on a parlé de cette affaire en oubliant complètement qu'il y avait un Premier ministre. On a parlé du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, on a parlé du président de la République, Emmanuel Macron, mais on oubliait qu'il y avait un Premier ministre. Ça, c'est une évolution du régime qui est bien sûr dans la ligne d'une évolution de la Ve République, mais qui ne cesse de se creuser, ne cesse de s'aggraver, avec le sentiment que finalement, un homme en position de monarque élu, eh bien, peut faire ce qu'il veut.
D'accord.
Donc je crois que ce n'est pas simplement des dispositions psychologiques, c'est plutôt qu'il y a, on pourrait dire, un fonctionnement de la démocratie qui ne va pas. Parce qu'on a beaucoup mis en avant le caractère républicain de cette affaire, et à juste titre. C'est-à-dire, normalement, eh bien, on ne peut pas avoir des gens qui occupent des fonctions alors qu'ils n'en ont pas la responsabilité. Donc, on peut se dire, il n'est pas normal que cet homme fasse la police. C'est vrai.
Oui.
Ça, c'est la question républicaine. Mais il y a une deuxième question, qui est la question que j'appellerais démocratique. Est-ce qu'il est normal, par ailleurs, qu'on tape les manifestants? Ça, c'est pas simplement la question de savoir s'il est tapé par un policier ou par quelqu'un qui n'est pas policier, mais est-ce qu'il serait normal que cette scène ait lieu si ça n'était pas Alexandre Benalla, mais si c'était un policier ordinaire?
Oui, oui.
Est-ce que ce serait normal? Ça, je crois qu'il faut qu'on en parle aussi. Dans une démocratie, normalement, le rôle des policiers n'est pas de taper les gens.
Il n'est pas,
y compris s'ils sont agressés.
Alors les autorités disent qu'il y avait un contexte, c'était les manifestations du 1er mai, il y avait eu des violences d'après les autorités, donc pour se justifier, les autorités évoquent ce contexte tendu qu'il y avait au moment de la manifestation.
Bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on voit sur les images, et ce qui a été confirmé depuis, c'est que les policiers autour ne réagissent pas, c'est-à-dire qu'ils trouvent que c'est normal. Aujourd'hui, la seule discussion qui ait lieu, c'est sur le fait de savoir... Est-ce qu'il était normal que quelqu'un qui n'était pas policier fasse cela? Il y a une deuxième question qui est-ce qu'il serait normal qu'un policier le fasse? Et je crois que le fait que les policiers ne réagissent pas veut dire que ça leur paraissait normal.
Oui.
Ça paraît normal à tout le monde. Et pourquoi? Parce que depuis quelques années, on constate que les violences policières dans les manifestations ne cessent de s'aggraver.
Oui.
Alors bien sûr, on nous dit c'est parce que les manifestants sont violents. Mais est-ce que le rôle de la police... et de se battre, comme si on avait, des gens dans la rue qui se battent, il y en a qui se battent, et il y en a d'autres qui répondent, etc., et on va dire, c'est pas moi, c'est l'autre. La police, c'est pas ça. La police, c'est quand même faire régner l'ordre. Ça n'est pas faire régner le désordre. Donc, taper des gens à terre, ça n'a pas une fonction policière.
Restez avec nous, Éric Fassin. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris 8. On vous retrouve d'ici quelques minutes. Nous allons prendre des auditeurs. Nous avons en ligne Dièse. Dièse, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Oui. Je vais intervenir.
Il y a un écho. Il faudrait éteindre votre radio.
Excusez-moi.
Éteignez votre radio, Dièse. C'est mieux pour l'écoute.
Fait.
Merci.
Oui, c'est fait. Oui, mais je veux dire que par rapport à Benalla, Macron, ça a été fait exprès. Parce que Macron veut protéger son ministre de l'Intérieur qui est Gérard Collomb.
Oui.
Autrement dit, on a vu tous les images. C'est la télévision, on les a vues.
Oui.
Nous, on n'est pas sur les lieux.
Oui.
Mais au fait, qui c'est qui surveille ces genres de manifs?
Oui.
Depuis que la France est France, c'est le ministre de l'Intérieur.
Le ministre de l'Intérieur. Il y a aussi la préfecture de police de Paris également.
J'arrive, monsieur.
Oui.
Le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui est le responsable du préfet de Paris.
Oui, oui, oui.
Bon. En plus, est venu maintenant les généraux et tout. Mais ce que le ministre de l'Intérieur a dit,
oui.
Normalement, dans un pays démocratiquement, dans un parti démocratique, on devait les limoger. Ça, c'est clair et net.
Oui, oui.
Mais vu son poids dans le gouvernement de Macron, c'est des gens que Macron ne va pas toucher comme ça.
D'accord. Donc vous pensez que le président de la République protège son ministre de l'Intérieur dans cette affaire ?
Il protège son ministre des affaires, de l'Intérieur.
Selon vous, c'est le responsable ? C'est le premier responsable dans cette affaire ?
C'est clair et net. Bon, je ne connais pas toute la loi comme ça, hein, mais depuis que moi je suis venu en France, dans ce genre de problèmes, quand il y a des coups des attaques révélées, des machins, c'est le ministre de l'Intérieur qui s'occupe de ça.
D'accord.
Mais vu son intervention à la télé, que nous avons tous suivi, et vu les images que nous avons tous vues, même il a insulté l'intelligence des Français et de nous tous.
C'est-à-dire
il a reconnu.
Oui.
Mais tout ce qu'il a dit, il n'est pas au courant de ça. Il n'est pas au courant de ça. Mais il était où alors ? Il n'était pas en France. Et le lendemain, il est parti en mission. Je crois qu'il est en mission, il est dans un pays là.
Si, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il était au courant dès le lendemain de cette vidéo.
Mais il a fait quoi ? Tout cela, c'est de la poudre aux yeux, je vais dire.
Très bien.
Macron a pris ça à son compte pour protéger ou non, parce qu'il ne peut pas l'enlever. Point.
Très bien. Merci beaucoup, Dièse, pour votre intervention. Le 01 55 07 58 00, l'affaire Benalla et ses conséquences, c'est le sujet d'aujourd'hui dans ce JDA. Nous avons en ligne Guy. Guy, bonjour. Allô ?
Oui, bonjour.
On vous écoute, Guy, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, écoutez, monsieur, l'histoire de l'affaire Benalla, c'est invraisemblable, puisque... vous savez, déjà, dans les pays anglo-saxons, je crois qu'il y aurait, déjà des démissions des responsables de haut niveau. En France, alors, on fait vraiment tout pour camoufler, pour étouffer l'histoire, l'affaire.
Oui.
Pourquoi ? Et déjà, même aujourd'hui, alors hier, déjà, hier, le président de la République a dit que c'est lui qui prend toute la responsabilité.
Effectivement,
Mais déjà, quand il dit qu'il prend la responsabilité, sachant qu'il y a une faute très grave, c'est-à-dire extrêmement grave, il doit tirer les conséquences, à savoir, il doit démissionner tout simplement parce qu'il a menti, non seulement, il a menti au peuple.
Vous pensez que le président de la République doit démissionner ?
Mais tout à fait,
parce d'accord.
Lui-même, lui-même, il n'a même pas respecté sa parole, et il a menti au peuple français, c'est-à-dire, c'est plus grave que ça. Mais quel exemple, les pays africains qui copient sur la France, quel exemple les pays africains vont prendre demain ? C'est-à-dire que, et même la France qui donne les leçons aux pays africains, la France applique les méthodes de la mafia. C'est de la mafia, monsieur. C'est de la mafia.
Bon, c'est votre avis, hein, c'est votre avis. C'est votre avis, Guy.
Non, mais écoutez, monsieur, prendre les gens, parce que tout le monde le sait, prendre les gens qui n'ont pas habilité à faire le travail de la police, et la personne va terroriser la police. Vous appelez ça quoi ? Vous appelez ça quoi ? C'est ni moins ni plus ce que monsieur Trump est en train de faire à la Maison-Blanche.
D'accord.
Donc, moi, je dis que monsieur Macron doit démissionner pour qu'il y ait une cohérence par rapport à ses propos et par rapport à son engagement vis-à-vis de ce qu'il avait promis au peuple français.
Merci beaucoup. Très bien, Guy. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous retrouvons notre invité, Éric Fassin, professeur de sociologie à l'Université Paris 8. Pour rebondir sur les propos de Guy, Éric Fassin, le président Macron s'est exprimé hier soir. Alors, a-t-il bien fait et quels sont les risques politiques pour lui ?
Ce qui est frappant dans cette affaire, et les deux interventions qu'on vient d'entendre le soulignent, c'est que la question est posée de la responsabilité de qui. Et on voit que, par exemple, effectivement, Gérard Collomb s'est défaussé sur le président de la République ou bien a renvoyé sur la préfecture de police comme si lui-même, en quelque sorte, n'avait pas de responsabilité propre. La responsabilité, c'est les autres. Et on voit que la police, en gros, a laissé faire tout ça ou bien a été complice, ou bien a accompagné. Pourquoi ? Parce qu'on se disait, ce monsieur Benalla, eh bien, il a des relations très haut placées, c'est quelqu'un donc on est bien obligé de faire ce qu'il veut. Autrement dit, on a toujours l'impression que ça renvoie vers le haut. C'est-à-dire que ça renvoie vers monsieur Macron. Et que fait Emmanuel Macron ? Il dit, j'assume. Il dit, je suis responsable. Sauf que c'est une parole creuse. Parce que ça veut dire quoi, assumer une responsabilité ? Un homme politique qui assume une responsabilité, ça veut dire qu'il peut y avoir des conséquences. Quelles sont les conséquences ? Pour l'instant, nous avons un président de la République qui est intouchable. Donc, affirmer j'assume ma responsabilité alors que dans le même temps personne d'autre n'assume sa responsabilité, c'est souligner que le seul qui assume une responsabilité, c'est celui qui ne peut encourir aucun risque.
D'accord. Vous souhaitez qu'il témoigne par exemple devant la commission des lois de l'Assemblée nationale comme le demandent plusieurs élus de l'opposition ?
Bah écoutez, moi je ne suis pas constitutionnaliste, donc apparemment les constitutionnalistes sont divisés sur le sujet, c'est-à-dire est-ce qu'on peut ou pas ?
Oui.
C'est possible, je trouverais qu'il serait normal qu'il puisse être entendu, mais de manière générale, je trouve que nous avons là l'illustration de quelque chose que tout le monde sait bien, c'est la dérive du présidentialisme, c'est-à-dire le fait qu'on est en quelque sorte un monarque élu pour quelques années, qui est soustrait aux lois, et qui donc s'habitue et habitue les gens autour de lui, qui sont ses favoris, à se sentir autorisés à faire n'importe quoi. Je crois que la démocratie, eh bien, ça suppose qu'il y ait des responsabilités. Il ne suffit pas de dire « je suis responsable », encore faut-il qu'il y ait des conséquences.
Éric Fassin, on voit l'opposition hein, qui est très en pointe dans cette affaire. Que pensez-vous justement de son attitude ? Elle est dans son rôle, on le sait. En fait-elle trop ? Est-ce que vous souhaitez par exemple que l'opposition soit aussi plus virulente pour dénoncer par exemple les bavures policières ?
Je pense qu'effectivement, la première responsabilité de l'opposition, c'est de s'opposer. Et c'est très important parce que c'est un enjeu démocratique. Il est important que les gens se disent qu'il y a, disons, des instruments de critique, des instruments de contre-proposition, etc. Donc, que l'opposition s'oppose, c'est très bien. Après, est-ce que nos représentants au Parlement devraient davantage se soucier des dérives policières ? Bah oui. Oui, parce que je crois que c'est quelque chose qui est très dangereux dans notre société. C'est pas simplement que ça touche quelques individus, mais ça décrédibilise la police.
Oui, oui.
Si les gens ont l'impression que la police, c'est des gens qui font n'importe quoi, eh bien, ça veut dire que on voit se répandre un peu partout ces inscriptions en disant « à cab, tous les flics sont des salauds
oui, ».
Bon, ben ça, c'est très coûteux pour l'État. L'État a besoin que les gens croient que faire appel à la police, eh bien, c'est être protégé et non pas être menacé. Et je crois qu'il y a un enjeu, encore une fois, républicain, mais aussi démocratique. Il est important que les gens puissent croire à leur police, mais pour ça, il est important que leur police soit surveillée. Et le problème n'est pas seulement le fait qu'il y ait là usurpation de la fonction policière par quelqu'un qui n'est pas policier, c'est aussi le fait qu'on s'est habitué à tout ce qui se passe dans les manifestations. Vous savez aujourd'hui que quand vous allez dans une manifestation, par exemple, si vous avez du sérum physiologique sur vous, eh bien, on le saisit. Pourquoi ? Parce que c'est considéré comme une manière de vous protéger par anticipation contre les gaz lacrymogènes.
D'accord.
Eh bien, ça, c'est un problème.
Ouais.
Considérer qu'on n'a pas le droit de protéger ses yeux contre les gaz lacrymogènes, ça dit quelque chose sur ce qui se passe aujourd'hui dans les manifestations en France.
Ouais,
donc, il s'agit plus seulement des violences policières dans les banlieues, dont on avait l'habitude depuis longtemps.
Ouais.
Il s'agit aussi de violences qui sont des violences policières politiques, puisqu'elles frappent en particulier les manifestants.
Restez avec nous, Éric Fassin, on vous retrouve d'ici quelques minutes. Nous avons des auditeurs en ligne. Tout d'abord, Sissoko. Sissoko, bonjour.
Bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Alors, moi, ce que j'ai à dire sur ce sujet, c'est que, enfin, Macron, le président de la République, il commence, le président de la République, la 5e République, il commence à avoir des problèmes.
Oui.
Parce que, vous vous souvenez, quand il a été averti, il a fait le Louvre. Le Louvre, c'est l'ancien palais des rois de France.
Oui.
Bien avant la Sainte-Chapelle ou comment on appelle, le palais de Versailles.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un monarque républicain. Il a montré dès le départ.
D'accord.
C'est la énième épisode de guerre qu'il y a entre Macron et les médias. Parce que les médias lui ont reproché de verrouiller ces informations. Le média veut l'avoir sa peau, quoi. Ça, c'est
d'accord.
Le premier point.
Voilà, vous pensez que ce sont les médias qui veulent aujourd'hui, comme vous le dites, la peau du président de la République ?
Oui, ils veulent parce qu'ils ont en fait, ils veulent lui créer des problèmes parce qu'ils lui ont reproché dès le départ de verrouiller sa communication. Ils ne veulent pas ça. Le deuxième aspect, il y a aussi un autre aspect qu'il ne faut pas négliger. Ce monsieur-là, soit, c'est possible aussi qu'il soit, qu'il ait pris une substance au moment où il fait une substance illicite, soit
Je suis désolé Sissoko, on a du mal à vous entendre, la ligne est très très mauvaise, essayez de rappeler si vous pouvez d'un autre poste. Merci d'être intervenu, nous avons en ligne Fulbert, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Oui, comme je disais à votre collègue tout à l'heure,
oui.
Je pense que les gens, ils en font un peu trop de cette histoire-là.
Quand vous dites les gens, vous parlez de qui ? Soyez plus précis.
Que ça soit l'opposition ou les médias, en fait.
Oui.
Ouais. Parce qu'on a vu ici des dérives policières qui sont pas allées loin, qui n'ont pas eu ces gens d'écho. Et si le président il accepte de prendre la responsabilité, c'est parce que il accepte d'être coupable, c'est parce que c'est lui qui a nommé cet individu à son poste.
Oui.
Aujourd'hui, quand il parle de trahison, c'est bien vrai, c'est bien entendu par tout le monde. Il veut dire par là que cette personne l'a trahi dans la mission qui lui avait été confiée.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est pour vous dire que les médias et l'opposition, ils n'ont rien à se faire sous la dent.
Quand vous parlez des médias, c'est-à-dire que les médias ont tort de parler de cette affaire, de la suivre de cette manière ?
Non, pas tort de la suivre de cette manière, mais d'amplifier, en fait, jusqu'à ce que ça devienne une histoire d'État.
Oui, oui.
Ouais, c'est ça le problème. Il y a pire que ça. Oui,
vous savez, les médias font leur travail, c'est-à-dire ils informent les téléspectateurs, les auditeurs concernant le déroulement de cette affaire. On sait qu'il y a actuellement une commission d'enquête qui auditionne plusieurs personnalités, donc les médias rendent compte de ces auditions qui sont libres, hein, tout le monde peut les entendre.
Oui, tout à fait. Mmh. La question qu'on peut se poser,
oui.
Un fait qui s'est déroulé depuis le 1er mai,
oui.
Et c'est aujourd'hui. Cette vidéo est à la portée de tout le monde.
Oui, donc, oui,
on peut bien se poser cette question. Pourquoi ne pas avoir réglé ce problème dès l'instant où ça a eu lieu ?
Oui.
C'est ça, oui. Parce que là,
on n'était pas au courant, tout simplement.
Mais non, si, les médias sont au courant. Les médias, c'est bien le journal Le Monde qui a publié la vidéo.
Oui, oui, oui.
Voilà. Donc, pourquoi, pendant ce temps, pendant cette période, ils n'ont pas dénoncé ce fait ? Voilà, quoi. Moi je trouve qu'ils en font un peu trop. Je
d'accord.
Il y a d'autres chats à poter, il y a vraiment d'autres chats à poter. Il y a des choses plus graves dont ils n'en parlent pas, telles que les gars de corps des dirigeants du FN qui font beaucoup de dérives, mais
oui,
voilà, ils
n'en oui.
parlent pas. Voilà, donc.
D'accord.
Voilà, c'est pas,
très très bien. Ben, merci beaucoup Fulbert pour votre intervention. Alors avant de prendre des auditeurs, sur ce point on retrouve Eric Fassin. Alors Eric Fassin, vous avez entendu deux auditeurs qui ont pointé du doigt les médias. Vous, quel est votre regard sur la manière dont les médias ont géré cette affaire ?
La première chose, c'est que c'est le président Macron lui-même qui attaque aujourd'hui le pouvoir médiatique, en disant que c'est un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire. Et c'est intéressant parce que lorsque Emmanuel Macron le fait, il ne le fait pas devant les médias, il le fait devant ses amis,
oui.
Et c'est certains d'entre eux qui vont prendre des images et les diffuser ensuite. Autrement dit, il contourne les médias. C'est une forme de communication.
Oui.
Et on comprend bien que quand les médias, par exemple, mettent en couverture le couple Macron, manifestement, le président de la République est plutôt content. Lorsque les médias, en revanche, mettent en avant des dysfonctionnements de l'État, eh bien, il est moins content.
Oui.
Très bien.
Oui.
Donc, la question, c'est... aujourd'hui, dans le système présidentialiste, et non plus seulement présidentiel, dont nous parlons depuis tout à l'heure, eh bien, quels sont les contre-pouvoirs ? On s'aperçoit qu'il reste quelque chose au Parlement. On
ouais.
avait un peu oublié que le Parlement avait un pouvoir, mais là, ces auditions permettent de faire entendre quelque chose,
ouais.
premièrement. Deuxièmement, il y a aussi les médias, qui souvent accompagnent le pouvoir, mais qui parfois peuvent fonctionner comme des contre-pouvoirs, et en particulier, lorsqu'il y a des scandales, on s'aperçoit qu'effectivement... parce que c'est quelque chose qui marche bien pour les médias, c'est quelque chose qui permet de mener des enquêtes, d'écrire des
oui,
articles
oui.
nouveaux, de trouver des informations, c'est-à-dire où les médias font leur travail.
Oui.
Lorsque les médias font leur travail, qui n'est pas d'accompagner le pouvoir, mais de chercher ce qui ne va pas, c'est-à-dire de rendre public des choses qui ne le sont pas, eh bien, les médias, à ce moment-là, fonctionnent comme un contre-pouvoir. Et dans une démocratie, il faut beaucoup de contre-pouvoirs, surtout à un moment où le pouvoir est autant concentré dans les mains d'une seule personne.
Nous avons en ligne Malik. Malik, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour. En fait, moi, je vous appelle juste à vous dire que, pour l'homme de Macron, je ne sais pas ce que tu parles, en fait, déjà... moi, ça me... Bon, en fait, à mon opinion, que je dis ça, ça m'égave. Nous, les Africains, déjà, on a qu'à régler nos propres problèmes qui oui. tournent en Afrique et dans le monde entier.
Oui.
Quand
oui.
on regarde à l'Afrique, on regarde au Cameroun et au Mali,
oui.
toute l'Afrique d'ailleurs, tout ce qui se passe, moi, je pense qu'on n'a qu'à parler ça sur la radio pour qu'on puisse comprendre,
oui.
pour
oui.
qu'on puisse oui. parler entre les uns des autres, entre nous.
D'accord.
Déjà, tout ce qui se passe, déjà, regarde le massacre qui se déroule au Cameroun, au Mali, moi, ça
oui.
me touche.
Oui.
Je regarde
oui.
un frère qui parle réseaux sociaux, un Ivoirien, donc tu pleures à chaque fois sur les réseaux sociaux. Je
D'accord,
pense que quand
ouais.
on prend l'exemple de ce sujet-là, donc on arrive à convaincre des choses. Donc mais ceux qui disent la radio, voilà, Macron, Nanani, Benalla, Nanani,
ouais.
moi je pense que ça nous... Bon, en fait, même si on est français, ceux
ouais.
qui sont des Français et tout ça là, ça c'est autre chose, mais ça n'est rien.
C'est-à-dire
pas,
que vous ne vous sentez pas concerné par cette affaire, c'est ça? C'est ce que vous
très
voulez
bien,
dire.
Très ouais. bien. Moi je me sens que nous, les Africains, on n'a pas... Ça nous regarde pas. On ne regarde pas ce qui dit sa radio africaine. Moi, j'aime cette radio.
Oui.
Je vous aime tous, j'aime toute l'Afrique. Je pense que si on parle plus intéressant à
oui,
l'antenne,
oui, oui.
je pense que pour convaincre les uns et les autres en tant qu'un Africain, donc moi, je pense que c'est cette chose-là qu'on devrait intégrer dans ça.
Oui, mais
donc,
sachez juste une chose, Malik, hein, c'est que beaucoup d'Africains sont intéressés par cette affaire. Hein. Les médias africains suivent cette affaire de près. Donc,
oui. Oui, mais en fait, ceux qui s'intéressent à ça, mais je pense qu'il n'a qu'à penser autre chose à dire. C'est pas que
D'accord.
moi, je pense que ça nous regarde. Franchement, ça m'égale.
Très bien. Ok. Merci, voilà. Malik. On a bien compris votre point de vue. Nous avons en ligne Jomo de Beng. Jomo, bonjour.
Oui, bonjour, M. Guillaume. Bonjour à votre auditeur. Moi, je pense que je vais vite rentrer dans le... Vous m'entendez, non?
Oui, on vous entend. Allez-y.
Je vais rentrer vite dans le vif du sujet, quoi. C'est que moi, je pense que c'est un scandale au plus haut sommet de l'État.
Oui.
Pourquoi?
Bah, ça a été dit durant toute l'émission. Oui, allez-y.
Il y en a qui vont
oui.
parler. Il y en a qui vont nous dire que c'est une bavure policière. Non, c'est pas une bavure policière. C'est une
oui.
bavure individuelle. Individuelle parce que c'est un membre du cabinet présidentiel
oui.
qui est de couscous civil, qui est entré en renfort pour sauver la police. Enfin, parce que quand je comprends aujourd'hui, ils ont dit sur BFM que son avocat a stipulé ceci, et je répète, que M. Benalla a vu que la police ne pouvait pas faire, la police était débordée.
D'accord.
Mais pourquoi la police est débordée? C'est pas le travail de M. Benalla
oui.
d'être
oui.
au secours de la police.
Oui,
la police
oui.
fait son travail.
Mais il n'est pas policier surtout, c'est surtout ça
il
en fait.
Il n'est pas
oui,
policier
oui.
surtout, c'est ça. Pourquoi je vous ai dit que c'est une bavure individuelle, c'est pas
D'accord.
une bavure policière. Vous savez, on ne pouvait pas parler à M. Benalla, comme l'a dit tout à l'heure votre invité. M. Benalla se croyait très intouchable. Et même jusqu'à présent, peut-être qu'il se croit intouchable parce
oui.
qu'il a fait une tournure médiatique jusqu'à l'extrême.
Oui.
Aujourd'hui, M. Benalla doit savoir que c'est une république qui est fondée sur des lois, sur des principes, et
oui.
le gouvernement est en train de gouverner. Même le président Macron, aujourd'hui, a fait la faute la plus grave de son mandat.
Oui. Oui.
Il a fait
oui.
la plus faute grave de son mandat. Et je suis d'accord pour lui, pour qu'il vienne nous dire
oui.
que j'en assume la responsabilité. Pourquoi
oui.
Parce
oui.
que c'est lui le président de la République. C'est à lui que
d'accord.
les Français ont donné mandat.
Oui.
À ce titre-là, il n'est pas à défendre qui que ce soit. Il a à prendre les responsabilités. Et si possible... que je le connais humble, ce monsieur, il va s'expliquer devant son Parlement. Et ça,
D'accord.
c'est sûr et certain.
Okay.
Parce que le président, il faudrait que le président lave son image. Et
oui.
là, en ce moment-là, Benalla saura où peindre. Parce que dans presque tous les pays, M. Guélab, laissez-moi terminer,
oui.
il y a dans le cabinet présidentiel des civils.
Oui.
Il y a des civils dans tous les cabinets présidentiels.
D'accord.
Mais le problème, c'est que M. Benalla s'est pris pour le suprême. Et c'est ce qui n'est pas bien. C'est ce qui n'est pas bien. Il a sali l'image de Macron. Il faudrait que Macron fasse tout pour reprendre
oui,
la
oui,
confiance
oui.
des Français.
Très bien.
Voilà.
Merci beaucoup, Jomo, pour votre intervention. Nous avons en ligne Abdoulaye. Abdoulaye, bonjour. Très rapidement, Abdoulaye.
Mais en fait, je réponds à Jomo. Je ne suis pas d'accord avec Jomo parce que moi, je pense que tout simplement, c'est une erreur de jeunesse de la part de M. Alexandre. Et on ne peut pas virer ses amis comme ça.
Oui,
est un opposant
une erreur de jeunesse, c'est-à-dire
une erreur de jeunesse parce que le mec il n'a pas d'expérience, il a commencé un boulot, il est bien payé, il n'a pas de problème de fin de mois, donc je pense qu'il s'est laissé emporter. Voilà.
D'accord.
Mais
okay.
c'est pas un problème d'État, c'est rien du tout. Et puis Jomo est un membre de l'UMP, c'est un mauvais perdant, il faut qu'il fasse attention. Voilà.
Pas d'attaque, pas d'attaque s'il vous plaît contre d'autres auditeurs, s'il vous plaît.
C'est pas une attaque, c'est un frère, et je constate, c'est la vérité.
Très, très bien.
Voilà.
Merci.
Au revoir.
Merci Abdoulaye pour votre message. Alors nous retrouvons Eric Fassin. Eric Fassin, vous avez entendu les auditeurs. Alors selon vous, quelle trace peut laisser cette affaire aujourd'hui sur le plan de la société, sur la société française, sur le plan politique également?
Écoutez, c'est
savoir si une affaire comme celle-ci va avoir des conséquences durables, puisque on se doute bien que dans quelques jours, on parlera d'autre chose. Et de fait, ce que font remarquer plusieurs auditeurs, c'est que, après tout, peut-être qu'on en fait trop, que ça n'est qu'une petite affaire par rapport à beaucoup d'autres problèmes qui se posent. Oui. Pour ma part, je dirais plutôt que, effectivement, cette affaire n'est qu'une petite affaire, mais elle est le révélateur d'un fonctionnement plus général.
Oui.
La raison pour laquelle on peut parler d'affaires d'État, c'est que c'est pas simplement que l'État est impliqué, mais que ça révèle quelque chose sur le fonctionnement de l'État aujourd'hui. Je crois qu'il y a là quelque chose d'important. Il est important que dans notre société, l'État soit contrôlé. Qu'il soit contrôlé par l'État, mais qu'il soit contrôlé aussi par les parlementaires, qu'il soit contrôlé aussi par les médias. Autrement dit, la démocratie, c'est pas un État qui fait ce qu'il veut, parce que sinon, il n'y a aucune différence avec les sociétés antidémocratiques. C'est un État qui est sous le contrôle de toutes sortes de contre-pouvoirs. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est que c'est la leçon que tout le monde va en retirer. Mais pour ma part, ce que j'ajouterais, c'est que j'espère qu'on n'oubliera pas dans cette affaire républicaine la question démocratique, c'est-à-dire qu'on n'oubliera pas que même si ça avait été un policier, il est très dangereux aujourd'hui de vivre dans une société où les policiers pourraient trouver normal d'avoir ce comportement et où on serait seulement choqué lorsque ce ne sont pas des policiers qui le font.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Éric Fassin d'être intervenu dans le journal des auditeurs. Merci aux auditeurs pour vos appels. Merci à Maxime pour la réalisation et à Edouard qui réceptionnait vos appels. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal des auditeurs sur Africa numéro 1.